Nous sommes en compagnie d'Alain Tapier, conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du Palais des Beaux-Arts de Lille et commissaire de l'exposition « Fables du paysage flamand, Bosch, Bruegel, Bosch, Brill » à voir jusqu'au 14 janvier 2013 au Palais des Beaux-Arts de Lille, dans le cadre de Fantastique Lille 3000, en partenariat avec les musées royaux de Bruxelles. Alors Alain Tapier, comment et quand est née cette notion de paysage flamand ?
C'est une exposition que l'on conçoit lorsqu'on dirige une institution, comme le Palais des Beaux-Arts. Une exposition née au cœur des collections. Les collections flamandes au Palais des Beaux-Arts sont importantes, sont même essentielles en France, voire en Europe. Et il était juste que d'exploiter cette dimension du paysage dans les collections. En général, Les expositions du Palais des Beaux-Arts sont des créations. Et c'est en tant que conservateur du musée, enfin directeur du musée que je l'ai fait. Je suis d'ailleurs toujours directeur du Palais des Beaux-Arts jusqu'à la fin de l'année. Mais c'est purement fictif, je me suis tellement occupé de l'exposition jusqu'ici.
Il nous reste quelques semaines.
Je tiens néanmoins à souligner ce lien fondamental entre les collections et entre l'exposition. Voilà comment cela naît. Ensuite, eh bien, lorsque, comme moi, vous vous intéressez à une histoire de l'art qui n'est pas l'histoire des ateliers, l'histoire des attributions, l'histoire du marché de l'art, c'est très passionnant et c'est même très nécessaire, vous vous intéressez à la fonction de l'œuvre d'art. La fonction de l'œuvre d'art, c'est une fonction qui passe formidablement par le caractère visuel à partir, disons, même du XVe siècle. Et pourquoi à partir du XVe siècle ? Parce que tout simplement, dans la mystique flamande, quelque chose se met en place, très passionnant, qui consiste à dire, au lieu de regarder les figures des saints, et puis de rester devant, et puis de prier, de je ne sais trop quoi, ou répéter des formules, ne serait-il pas mieux de regarder la nature, de voir comment elle vous inspire, et de savoir que de toute façon, la nature, c'est la représentation de l'infini, c'est la représentation du sens caché, c'est pour l'époque la représentation du divin. C'est là où résident toutes ces trois notions que je viens de citer. Donc il y a une sorte d'interactivité qui se produit entre la nature et celui qui est là devant et qui médite, pense, réfléchit et d'une certaine manière se fabrique des images. Alors confiez cette même activité à un peintre et vous aurez un paysage. Vous l'aurez à partir des années 1470, 1480, avec Memling, avec Gérard David, avec Dierbouts, que nous avons au musée. Et puis ensuite, laissez venir un type comme Jérôme Bosch, avec une formidable capacité de travail, avec un ancrage religieux et spirituel très puissant dans sa ville de Bois-le-Duc, membre de la confrérie Notre-Dame, avec un atelier tout à fait formidable, avec plein de gens qui travaillent avec lui et qui sont capables de répondre à la demande, voire même à la commande. Avec en plus, une conviction personnelle, qui est le monde est fou, et il faut le dire. Mais en même temps, il faut le dire, mais la folie fait partie du monde. Erasme l'a dit. S'il n'y avait pas la folie, mais qu'est-ce qu'on s'ennuierait ? Donc la folie fait partie du monde, mais le monde est fou. Il faut énoncer cette folie et voir pour la tempérer, la faire connaître, là une sorte de... Il y a une sorte de relation un petit peu cathartique avec tous ces tableaux. Et cette folie bien, va s'exprimer à travers des paysages. Alors, les paysages, ce qui caractérise la peinture flamande, c'est que dans cette dynamique du paysage, eh bien, c'est dans la nature que va résider le sens. Non, pas du tout le sens, le symbole, les symboles. Le sens, il sera là. Un petit Saint Jérôme, tranquille, au bord du tableau, un Saint Christophe qui traverse l'image, très grand, il enjambe les fleuves et tout ça, il résiste aux éléments, un Saint Antoine totalement assailli, c'est une vraie fête foraine, hein, il est assailli de tous les côtés, ça vient dans tous les sens, on lui souffle dans les oreilles, partout, on lui fait des propositions un petit peu malhonnêtes aussi et tout ça. Il y a même un ou deux tableaux où il se demande ce que c'est, pourquoi pas. La plupart du temps, il fait semblant de ne pas voir. Donc tout cela crée un monde tout à fait stupéfiant, tout à fait hétérogène et un monde plein de symboles. Mais alors justement, c'est toute la question. Il y a des symboles qu'on peut comprendre. D'abord parce qu'on les connaît. On dit, tiens, oui, ça c'est la fontaine de vie, ça symbolise la fontaine de vie. Ça, oui, la bouche, c'est l'enfer, c'est le Léviathan, ça symbolise... Bon, il y a des choses qu'on connaît très bien. Il y a d'autres choses que l'on va reconnaître parce qu'on dit, mais c'est dans la Bible, cette image-là. Donc c'est une parabole. Hein, parabole qui vient de la Bible, de l'Ancien, du Nouveau Testament. Il y a d'autres choses qui viendraient de la sagesse populaire, des proverbes, des dictons. Alors, quand on en connaît pas mal, on dit, je reconnais là le dicton. On voit à un moment donné une petite anguille qui symbolise un peu la séduction féminine. On connaît le dicton, il y a un dicton là-dessus. Je ne le connais pas, il est en flamand. Et puis à un moment donné, on a aussi des adages, parce que Erasme est là et d'autres, mais surtout Erasme, qui fabrique des adages. Tout cela, c'est visuel. Et c'est cette formidable, je dirais, matériel visuel, mais en même temps écrit et oral, qui va se traduire en images de façon totalement fonctionnelle, car ces tableaux sont dans les maisons. Les gens en ont. Vasari, le grand historien, entre guillemets, premier historien des peintres en Italie, dit, mais tous ces flamands, même les savetiers ont des tableaux chez eux. Et c'est vrai que dans les maisons, il y a ces petites occurrences de réflexion, de méditation, de cette petite injonction morale, comme nous, on peut avoir des formules chez nous, ou des citations de poètes, d'artistes, etc. Et donc, voilà comment le premier point fondamental, c'est la relation entre un tableau, c'est un texte qui devient image. Alors c'est d'une modernité. Non, le mot moderne n'a pas sa place ici. C'est d'une actualité. C'est formidablement présent, c'est formidablement vivant et c'est probablement encore futur. Quand je dis que le mot moderne n'a pas sa place, c'est que le mot moderne implique une rupture avec un temps passé pour instituer la modalité du temps, hein, ce qui se passe aujourd'hui. Là, il n'y a pas besoin de rupture. C'est vraiment la continuité. C'est d'autant plus la continuité que lorsque... on regarde ces petits symboles. Par exemple, regardez, il y a un tableau de Jérôme Bosch. On voit une petite une mule, comme on dit, une très jolie mule, avec une petite voile dessus et puis une petite scène à l'intérieur. Bon, eh bien, c'est d'un symbolisme fou. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Mais ce sont des symboliques qui viennent de l'expérience quotidienne. Ce sont les gamins qui laissent passer une godasse dans le ruisseau. Ils mettent quelque chose à l'intérieur, une chose à eux, un gris-gris un peu caché, puis ils mettent un petit bout de voile, un petit bout de tissu pour que ça avance plus vite. Vous voyez comment se fabrique la symbolique. Et c'est ce qui est tout à fait passionnant. Elle est comme ça dans un premier temps, autour de Bosch, avec des artistes qui l'accompagnent, Peter Heuss, Mundane, des gens pas connus, mais c'est pas grave. Leur œuvre est aussi belle que celle de Bosch, différente. Vous avez des tableaux qui sont Bosch, pur jus, pur sucre, mais ça veut rien dire, car dans cette époque-là, ce qui est conceptuel, ce qui est l'idée, est plus important même que ce qui est la main. À la limite, on préférait avoir une main plus facile, plus aisée, même si c'est celle d'un aide, d'un élève, que la main du maître. La main du maître, on s'en fiche complètement du moment qu'il a eu l'idée. Oui. Et c'est ça qui est absolument passionnant. C'est un tissu, c'est un réseau, c'est à la fois c'est un mélange formidable d'art populaire et en même temps de dynamique savante de la transmission. Et au moins jusqu'à Bruegel, ça fonctionne de cette façon-là.
Tout à fait. Alors, on a parlé de l'art chrétien, on a parlé des fables populaires dans ces tableaux, on n'a pas encore parlé des symboles alchimiques.
Oui, mais on n'en parlera pas.
Ah.
Non, on n'en parlera pas, parce que vous les connaissez, vous, les symboles alchimiques?
Non, mais j'attendais que vous me les expliquiez.
Personne ne les connaît. Le propre, justement, c'est de ne pas les connaître. C'est-à-dire, les symboles alchimiques, vous les connaîtrez si vous faites partie, à un moment donné, d'une secte, d'un milieu, d'un réseau. Ne croyez pas que Jérôme Bosch ait fait partie de secte. Hein. C'est pas parce qu'il y a des gens tout nus chez lui qu'il fait partie des adamites qui pratiquaient l'amour libre. Et probablement d'ailleurs, il n'est pas interdit de penser qu'il a pu à un moment donné laisser venir dans un de ses tableaux une suggestion, un élément de commande de la part de tel ou tel qui avait tout en ayant une pratique religieuse, une pratique un peu sectaire, un peu curieuse. Hein. Et donc, c'est très, ces pratiques alchimiques, par définition, on ne les connaît pas. Alors, évidemment, il y a des symboles absolus. On voit très bien comment l'entonnoir vient du monde alchimique, qui symbolise la folie. Les mortiers, les creusets. On voit très bien comment l'œuf est un symbole alchimique de l'origine du monde. Mais quand on dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Et en fin de compte, on ne sait pas. Ce n'est pas fait pour que vous sachiez, car vous n'êtes pas vous, vous ne faites pas partie de ça, ni moi non plus. Et ceux qui, de l'époque, n'en faisaient pas partie, n'avaient pas à connaître ce symbole.
C'est fait pour
et
les
c'est ça
initiés.
Qui est passionnant. Et vous avez même des symboles, comme disait Heidegger, des chemins qui ne mènent nulle part. Vous avez des symboles, vous croyez, l'artiste a à un moment donné abouché des choses ensemble, vous vous dites là, il y a un truc derrière, et en fait, il n'y a rien. C'est à peu près exactement comme dans un tableau de Magritte. C'est pour ouvrir de façon métaphysique une question et non pas la résoudre.
Mais ouvrir la question, c'est déjà l'essentiel.
Exactement.
Alors, vous avez titré, Alain Tapie, un des chapitres que vous avez écrit dans le catalogue, « Érasme, peintre malgré lui ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça ?
Mais ça veut dire que Érasme est un homme qui, lui aussi, pense que la folie règne sur le monde. Et dans le fond, il dit que ce n'est pas une mauvaise chose. Il s'inspire d'ailleurs de Saint Paul, hein, des textes, et il donne cette espèce de formidable ouverture. Simplement, il pense que quand même, on pourrait construire malgré tout des voies nouvelles. Et en particulier, autres que celles qui sont tracées par une tradition catholique qui est au bord de l'apoplexie tellement elle est d'une certaine manière dévaluée et corrompue. Et donc il apporte au sein même de la catholicité, il faut bien le dire, un véritable esprit de réforme. Et un des esprits de réforme extraordinaires, c'est qu'il dit, mais regardez les évangiles, surtout les évangiles, ça l'intéresse, il dit regardez les évangiles, c'est que des paraboles, c'est que des histoires imaginaires inventées. Et si nous continuions à parler aux gens, mais avec aussi un effet de parabole, avec des histoires imaginaires, inventées, et donc avec des métaphores. Et donc il est plasticien, il est peintre sans avoir jamais peint. On dit qu'il a peint des petits dessins quand il était jeune, ben, tout le monde l'a fait. Hein. On lui paraît qu'il aurait fait une crucifixion, on s'en fiche complètement. Mais par contre, il incite à travers sa démarche de théologien. On dit que c'est un théologien, c'est peut-être pas un théologien, c'en est peut-être un, c'en est probablement un, mais c'est avant tout un poète. Et c'est un poète qui pratique une réflexion sur l'infini, une réflexion sur le divin, une réflexion sur le sens caché, et il le fait essentiellement à partir d'une démarche poétique. Voilà. Et donc, ce qui est formidable dans la démarche poétique, c'est que l'essentiel, c'est d'être en chemin. C'est pas de trouver ou c'est pas d'arriver. Et alors, à partir de là, il va non pas s'intéresser aux peintres, mais il va s'intéresser aux images, à la peinture, à la gravure, à tout ce que vous voulez. Et donc, du coup, il est important pour les peintres qui vont le connaître, le reconnaître, le lire, voire même voir ses idées circuler, mais lui, il s'intéresse pas aux peintres.
De toute façon, à propos de folie du monde, on aurait besoin aujourd'hui d'un nouveau Jérôme Bosch.
Ou d'un Érasme.
Quand on prononce le mot fantastique à la Renaissance, on ne veut pas dire la même chose qu'aujourd'hui, bien sûr.
Nous restons sur l'idée de la fantaisie, nous restons sur l'idée de l'imaginaire, et nous savons que cet imaginaire est produit par des croyances, par des comportements fétichistes, probablement, par des croyances irrationnelles aussi, par des rêves, par des hallucinations qui arrivaient très fréquemment. L'hallucination peut arriver dans des moments de famine, et Dieu sait s'ils sont importants. Elle peut arriver lorsque on prend des plantes, non pas pour, entre guillemets, se shooter, mais tout simplement pour se soigner. Et qui sait si tel effet secondaire n'est pas recherché parfois. Et puis finalement, il arrive qu'on se trompe de dose. Et à ce moment-là, c'est grave. Et on peut y passer. La fameuse datura, qui est une plante extraordinaire qui pousse qui pousse au pied des damnés, la mandragore, n'est-ce pas? Eh bien, cette plante-là, très connue, très représentée, est une plante terrible en même temps. Et puis, comme cela, d'autres phénomènes extraordinaires, la maladie de l'ergot, c'est la cuticule du seigle qui se met à fermenter, donne des hallucinations assez incroyables. Donc finalement, tout ce monde fantastique est un monde quotidien. C'est aussi, quand vous voyez les tableaux, vous regardez dans le bas et vous dites, mais dis donc, c'est sale, c'est boueux, il n'y a pas de pavé là-dedans. Ben, c'est exactement pareil. On vit dans les villages, soit dans la poussière ou dans les rues, soit dans la poussière, soit dans la boue, qu'il pleuve ou qu'il fasse sec. C'est exactement pareil. Cette chose qui nous paraît à nous phénoménale, elle est phénoménale, mais en même temps, elle est ordinaire, si j'ose dire. Alors le fantastique, encore une fois, c'est le rapport entre une chose et une autre qui n'arrive jamais vraiment à fusionner. Un vieux général en retraite ou un vieux militaire qui traverse le village à califourchon sur un cochon, ça a dû faire rigoler à l'époque et ça continue à faire rigoler aussi. Et ça, c'est une hybridation qui fonctionne toujours et qui fonctionnait très bien en ce temps-là.
J'aime bien le mot hybridation, je le garde, parce qu'effectivement, ça définit totalement tout ce qu'on voit dans cette exposition. Alors, il y a aussi des choses intéressantes, les thèmes de prédilection de ces paysages qu'on voit en fond, donc, puisque en première...
Objection, votre honneur, on ne les voit pas en fond, on ne voit que ça. Et il y a des petits bonshommes qui se baladent de temps en temps dans le bas ou au milieu, qu'on voit à peine. Et il faut qu'on vous dise, tiens, regarde, il y a Lot qui part avec ses deux filles, sa femme est restée sur le carreau parce qu'elle s'est retournée au mauvais moment, elle les transforme en statue de sel. Donc non, on ne les voit pas les gens, c'est surtout le paysage qu'on voit, les formes merveilleuses, extraordinaires.
Et voilà, c'est ça. Et alors il y a des déserts, des tempêtes, la mer, la campagne, la forêt. Et moi ce qui me frappe toujours, c'est ces rochers déchiquetés, je me demande où ils sont allés chercher ça.
Pas loin, à Dinan, au bord de la Meuse. Dans le village d'origine, la petite ville d'origine de Joachim Patinir. Alors évidemment, il en a fait quelque chose. C'est vrai que ce sont des rochers qui dominent la ville. Une ville qu'on appelle de Dinan vient de la dinandrie, c'est-à-dire tout le travail des cuivres. Donc il y a des forges en permanence. Et vous voyez un peu les forges, les bouches de l'enfer, le feu, tout ça, etc. Ça joue très bien avec cette espèce de projection merveilleuse et en même temps fantastique que sont ces rochers escarpés qui se dégagent. Et en plus, c'est assez... C'est étonnant parce qu'en Belgique, il n'y en a pas tant que ça. Hein. Et qui se détache sur le fond du ciel, sur ce fond de lune, à un moment donné, de pleine lune. L'effet est extraordinaire. Et ce qui est passionnant, c'est que ce soit Joachim Patinir ou son supposé neveu Érymec de Blesse, eh bien, ces deux-là vont faire de ce qui est un paysage quotidien, voilà, c'est ma ville, c'est l'environnement de ma ville, vont faire une sorte d'objet absolument universel, puisque ce deviendra un grand moment du paysage merveilleux comme du paysage fantastique.
Alors vous avez dit que dans ces tableaux, on ne voyait que le paysage et pas les personnages. Et chez Josse de Monpère, il a carrément fait des paysages anthropomorphes. Comme ça,
exactement.
Comme ça, c'est plus simple.
Voilà, c'est-à-dire que vous voyez que le paysage, ou vous voyez que le personnage, ou vous voyez les deux. Les deux sont arrivés à un effet de fusion. Parce que ce qui est très passionnant, c'est que toute cette histoire, c'est une rencontre entre les hommes et Dieu, hein, et l'idée de Dieu. Ce qui fait que Dieu dit à un moment donné, et ça c'est dans Babel, il dit, ben voilà, descendons, voyons un peu, laissons les hommes... vivre et faisons que la prolifération, la division soit là, parce que ces hommes sont montés vers Dieu, sont montés vers le haut, un peu trop d'ailleurs, péché d'orgueil, n'est-ce pas ? Cette belle construction unitaire donne lieu à un moment donné à un retour de bâton du divin, si j'ose dire, vers une sorte d'excès, d'extraordinaire liberté donnée aux hommes, qui en même temps est une liberté dont ils usent et les conflits secrets. Il y a une formidable dialectique dans cette affaire et cette peinture en est en quelque sorte le théâtre.
Si l'on devait faire une visite express de l'exposition, même si c'est dommage, quels seraient les tableaux emblématiques que vous voudriez souligner ?
Eh bien, je ne connais de visite express que celle qu'un Japonais a menée une fois au Louvre. Il a fait 12 minutes, vous voyez.
Voilà, bon alors on
essaie. Mais il n'avait pas de patin à roulettes. Hein. Donc, je ne connais pas, moi, de visite express. Néanmoins, la visite, c'est celle qui va où vous voulez aller. La visite express, vous allez où vous voulez. Vous prenez 2, 3, 4 tableaux, le temps que vous avez. Sachez que dans les tableaux que vous n'avez pas vus, il y a peut-être des choses que vous avez vues dans les tableaux que vous avez vus. Et puis, si vous n'en êtes pas sûr, et bien vous y retournez.
Tout à fait. Et la scénographie, du coup, vous aide à vous perdre dans un espèce de labyrinthe qui, moi, m'a fait penser au labyrinthe ésotérique dans lequel les peintres nous emmènent. Et là, du coup, vous nous emmenez aussi dans ce labyrinthe.
Alors, en effet, c'est un labyrinthe ordonné, parce que l'idée du labyrinthe, c'est celle d'un lieu dans lequel on peut rentrer par plusieurs et dans lequel il y a un chemin à parcourir. Tout est fable dans cette exposition et tout est chemin. Et ce labyrinthe, je l'ai pensé, j'ai dit voilà, il faut un labyrinthe. Donc il le faut à l'intérieur de l'atrium. J'ai toujours voulu, dans ce palais des Beaux-Arts, faire des expositions à l'intérieur de l'atrium. Et j'ai pensé à un moment donné à un dessin d'André du Cerceau. C'est le seul que je connaissais qui ait fait des labyrinthes au XVIe siècle, mais il y en a plein d'autres bien sûr. Je ne voulais pas me laisser influencer par les labyrinthes médiévaux. Et alors j'ai confié à un architecte qui est Pierre-Louis Carlier, qui est un architecte lillois, le soin de créer cet espace, de l'écrire plus exactement, à partir de cette idée du labyrinthe, ce qu'il a fait admirablement, une très belle écriture. Il a écrit l'ordonnance de ce labyrinthe. Et c'est cette ordonnance qui... C'est pas parce que vous avez une idée que vous avez fait quelque chose, une architecture. Donc là, le miracle est venu et c'est une muséographie qui se lit au fur et à mesure qu'elle est fonctionnelle quand on regarde les tableaux. Mais c'est aussi une muséographie qui se saisit, on saisit l'objet dans son ensemble. Il suffit de monter à l'étage où il y a des collections du Palais des Beaux-Arts qui, je vous rappelle, sont absolument magnifiques et en ce moment totalement vides parce que tout le monde va à l'exposition. C'est bien dommage, mais enfin, au moins, si on va voir à l'étage les collections, on regarde ce labyrinthe, on a cette vue d'ensemble et on comprend encore mieux le propos général de l'exposition.
Et d'ailleurs, cette exposition, vous la prolongez de manière contemporaine avec Babel.
Alors, vous faites bien de le rappeler, nous la prolongeons de manière contemporaine, mais mieux encore, nous l'avons introduite de manière contemporaine, puisque l'exposition Babel est ouverte depuis le mois de mai, je crois, maintenant, et elle correspond à une pratique que nous avons au Palais des Beaux-Arts. L'art contemporain n'y est pas là pour faire du contemporain, comme partout, j'ose dire. Hein. Maintenant, vous voyez un artiste ancien, et dessous, vous mettez un nom contemporain en disant « mais non, c'est pas possible, enfin, c'est comme s'il lui fallait une particule, hein, presque. » Bon, non, l'art contemporain vient accompagner l'art ancien, dit ancien, pour pouvoir l'introduire. C'est comme une propédeutique. C'est une manière de faire comprendre comment, dans l'art, il y a infiniment moins il y a peu de ruptures et énormément d'effets de permanence. Des concepts qui se transforment, des idées qui continuent, des mutations totales. Il n'y a que l'histoire qui n'est pas capable de saisir la totalité du tissu, de l'épaisseur de ces mutations, mais autrement, c'est formidablement riche. Et c'est de la richesse par passage, pas par rupture. À chaque fois que quelqu'un fait quelque chose qu'il croit neuf ou qui est peut-être neuf, il dit « Ah oui, mais moi je suis en rupture avec ». La plupart du temps, il n'est pas en rupture. Il est dans une merveilleuse permanence, continuité, transformation et il crée bien sûr. Et pour nous, l'art contemporain, c'est ça. C'est pourquoi nous avons commencé par Babel, qui est un petit peu quelque chose de totalement fondateur et emblématique autour de l'œuvre de Peter Bruegel l'Ancien, car Peter Bruegel l'Ancien apporte quelque chose de phénoménal par rapport à Bosch. Il apporte une forme, je dirais, tranquille, ludique, drôle, souvent apaisée de l'allégorie. Plus compréhensible, plus transmissible, à partir de scènes quotidiennes, le semeur, la pie sur le gibet, des choses connues et comprises de tout le monde, et puis même des côtés savants, puisque la chute d'Icare, c'est quand même mythologique aussi, même si c'est un petit peu quelque chose de très bien, très largement diffusé. Et Babel est ce récit fondateur qui a toujours et qui continue phénoménalement à passionner les artistes contemporains, car des Babels, nous en voyons, nous en créons tous les jours. Moi, je reviens d'Ukraine, je peux vous assurer que L'architecture à Kiev est une architecture extraordinairement babélienne. Les Japonais qui sont merveilleusement présents par leur photographie dans l'exposition Babel, qui a été
les Chinois aussi.
Oui, oui, bien sûr, surtout les Chinois. Pardon, vous avez raison. Qui a été extraordinaire. L'exposition, je l'ai suggéré à partir d'anciens. Elle a été réalisée par Régis Cotentin et qui a trouvé des choses absolument formidables.
C'est vrai, ce Yang là est magnifique. Alors, et puis le monde flamand de la Renaissance n'est pas riche que de peinture, il est aussi de musique. Et vous avez choisi de clore cette exposition le 13 janvier 2013 par un concert de polyphonie flamande avec l'ensemble Celli et Terra.
Oui, j'ai choisi Maurice Bourbon, personnage formidable qui avait déjà œuvré dans le musée. J'ai aimé ce travail qu'il avait pu faire a cappella, utilisant la résonance naturelle de cet atrium et pour, en quelque sorte, donner à la musique d'abord sa dimension organique avant d'être une écriture. C'est une sorte de rapport organique au monde, de rapport physique. Et dans le fond, on s'intéresse beaucoup à l'écriture chez Bosch et chez Bruegel, mais ce qui est formidable, c'est ce rapport au monde organique.
Et d'ailleurs, c'est Josquin des Prés, interprété par Maurice Bourbon, que nous avons entendu en introduction de cet entretien. Un mot pour terminer sur vos missions en cours et futures.
Alors, ma mission en cours... Ma mission en cours, eh bien, c'est le musée, c'est l'exposition « Les fables du paysage flamand ». Mes missions futures vont me porter vers des horizons qui vont rester franco-flamands, je l'espère, qui seront italiens probablement, des projets d'exposition là-bas, qui seront parisiens aussi à travers peut-être des missions auprès du ministère de la Culture, s'ils trouvent le temps de les organiser. Voilà.
Donc voilà, beaucoup de travail pour les années à venir. Alain Tapier, merci. Je rappelle qu'il n'est pas question de rater cette merveilleuse exposition « Fables du paysage flamand » au Palais des Beaux-Arts de Lille jusqu'au 14 janvier 2013, que l'on peut toujours voir jusqu'à la même date la très belle exposition « Babel », que le musée a un numéro de téléphone 03 20 06 78 00 et que pour tous ceux qui ne pourront se déplacer à Lille, le catalogue paru aux éditions Somogy est une option possible. Après la musique, rendez-vous avec Claire Dancoine.